Merci.
Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Heureux d'être avec vous et d'avoir ce matin la joie de partager avec vous le message de la part du Seigneur. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Église d'avoir prié pour mon épouse et moi-même. Nous avons connu des temps un petit peu difficiles. D'ailleurs, mon épouse n'est pas au milieu de nous ce matin, mais elle vous salue dans le nom de Jésus-Christ et nous vous remercions d'avoir prié pour nous. Et nous comptons sur sa grâce pour aller de l'avant. Et je crois que chaque enfant de Dieu, d'ailleurs, compte sur la grâce du Seigneur pour aller de l'avant. Il est vrai que nous devons les uns et les autres réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, sans la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans notre vie, que serions-nous? Rien. Serions comme le reste du monde. Mais comme le Saint-Esprit habite nos cœurs et nos vies, comme nous sommes, parce que la parole de Dieu nous le dit, le temple du Saint-Esprit, chacun individuellement, nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut rester dans la vie du Saint-Esprit pour passer toutes les difficultés que la vie pourrait nous apporter. La certitude du chrétien, c'est de savoir que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est fidèle, qu'il est notre Père, qu'il nous a donné des promesses, qu'il les accomplit au travers du nom de Jésus. Et que sa parole est vérité. Ce qui veut dire que quand on est conscient de tout cela, l'enfant de Dieu n'a rien à craindre. La seule chose qu'il doit craindre, c'est de ne pas rester respectueux de la parole de Dieu pour la vivre dans sa vie. Parce qu'à partir du moment là où si l'enfant de Dieu s'égare quant aux choses de la parole de Dieu, il lui sera très certainement difficile de rentrer dans le ciel. C'est pour cela que la parole de Dieu, qui est grande et qui nous révèle les choses à venir, et ces choses à venir s'accomplissent devant nous aujourd'hui, elle nous demande simplement, et c'est un conseil à ne pas prendre à la légère, c'est prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais partager avec vous une méditation. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais une méditation qui doit nous amener à résister en tout temps et en toutes circonstances en comptant sur la grâce de Dieu. Alors, je m'appuierai sur ce verset qui se situe dans le prophète Michée, c'est un peu la Bible nous rappelle que c'est un petit prophète, mais je crois que devant Dieu, il n'y a pas de petit prophète ni de grand prophète. On pourrait les qualifier comme ça, mais il y a les prophètes. Et je crois que quand un homme parle au nom de Dieu, cela veut dire qu'il y a une grande importance à écouter. Alors, je voulais lire ce verset avec vous, donc dans Michée chapitre 6. Et verset 8. Et je lis ceci, je pense que vous l'avez ici. Voilà. On t'a fait connaître aux hommes, entre parenthèses, aux femmes. Alors, on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, écoutez bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou que tu pratiques la justice, suivant la traduction, que tu aimes la loyauté, c'est-à-dire encore la droiture, la justice, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire que tu recommences, que tu réfléchisses bien à cela, que tu marches humblement avec ton Dieu, car en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne marches pas humblement avec ton Dieu, avec le désir de le suivre, de l'aimer et de le servir humblement, tu passeras à côté de la porte. Or, il est important que nous comprenions que aujourd'hui, le Seigneur est peut-être bien plus près de revenir pour prendre son Église que nous le croyons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous écoutez comme moi certainement les informations. Et si vous faites bien attention, ce qui se passe, eh bien, épouse étroitement ce que le Seigneur a révélé dans sa parole, au travers des prophètes, au travers de Jésus-Christ. Tout y est consigné et ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'était déjà écrit il y a plus de 2000 ans et même avant. La parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et ce que Dieu nous demande, je le répète, c'est que nous vivions pour lui plus que jamais, si vous me permettez cette expression. Alors peut-être que nous pouvons dire « oui, mais les temps sont difficiles ». Mais les temps sont difficiles non pas pour nous décourager ou perdre la foi. Les temps difficiles que nous connaissons, et je vais vous dire une vérité, mais vous la connaissez comme moi, c'est que les temps difficiles qui sont devant nous vont devenir de plus en plus difficiles. Vous n'allez pas me lapider pour ce que je viens de dire. Vous savez que dans la Bible, aujourd'hui, on entend aux informations qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Mais il n'y a pas qu'en France, hein, c'est général, c'est mondial. Mais quand vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, je prends juste cet exemple, quand on regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit, c'est le prophète qui le dit, il y a des temps qui viendront où on ne pourra plus vendre ni acheter. Ce qui veut dire qu'il va venir des temps encore plus difficiles où ça va être difficile de vivre, de se nourrir, d'aller, de venir, de faire ce que nous faisions dans le passé. C'est des temps difficiles. Mais pour le chrétien, ces temps difficiles ne sont pas pour le décourager. Au contraire, c'est pour l'encourager. Ne dites pas « Amen » tous parce que bon, vous connaissez mon expression, hein, vous allez me décoiffer. Mais les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps sérieux où l'Église doit se préparer pour le retour du Seigneur. Peut-être quelqu'un pourrait dire, mais il vient. Oui, mais quand? Nul ne sait. Nul ne sait. Seul Dieu le sait. Et peut-être que les temps sont plus près. Mais comme la Bible nous dit, nul ne le sait. Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Ça revient à dire ce que la Bible dit dès le prophète Amos, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et la question qui est très importante pour vous comme pour moi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à rencontrer mon Dieu? C'est la première question qu'on doit se poser. Deuxième question, est-ce que je suis prêt à me confronter avec ce monde qui devient de plus en plus difficile dans tous les domaines. Le chrétien, lui, est conscient de ce qui passe, parce que ce qui se passe, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et que rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille. Ce qui veut dire que le temps qui passe ici, c'est pour permettre aux chrétiens d'affirmer leur foi dans la confiance en Dieu, dans leur parole de Dieu, de vivre vraiment leur foi en Dieu, quelles que soient les circonstances et les temps, et de dire « Seigneur, rends-moi fort par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Rends-moi fort par la foi, afin qu'en toutes circonstances, je reste un vainqueur et que je me prépare dans ce retour où tu viendras pour prendre ton Église pour me chercher. Rends-moi fort par le Saint-Esprit que tu m'as donné et que quoi qu'il arrive, je te reste fidèle. » C'est ça la vérité biblique. Alors bien sûr, on pourrait dire que les temps sont difficiles, mais je vais vous citer deux exemples si vous le permettez. Vous me le permettez, je vais essayer d'être court parce que j'ai une petite réputation que d'être un peu long, mais je vais essayer d'être court, mais je ne vous le promets pas. Le premier exemple que je voudrais vous nommer, c'est celui-ci, c'est l'exemple d'Enoch. dans l'Ancien Testament. Parce que Enoch, bon, on en entend parler peut-être. Peut-être vous découvrez ce nom pour la première fois ce matin, mais quand vous regardez la vie d'Enoch, croyez-vous que la vie d'Enoch était une vie facile? Enoch était un homme qui aimait Dieu, un homme qui servait Dieu, un homme qui suivait Dieu, de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Il suivait Dieu, mais quand on lit, il nous est dit qu'il était dans des temps difficiles. Et pourtant, dans ces temps difficiles, il est resté fidèle à Dieu. Il est même déclaré juste. Juste. Alléluia. Ce qu'attend Dieu de chacun d'entre nous, c'est d'être juste. Ce n'est pas de contester sa parole, c'est de le suivre. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Suivez-moi, prenez votre croix et marchez derrière moi et mettez vos pas dans mes pas. » Parce que si je suis Jésus et que je mets mes pas dans ses pas, même si les temps sont difficiles, je n'aurai rien à craindre. Parce que je suis mon divin maître. Et parce qu'il m'a dit, je suis tous les jours avec vous. Ce qui revient à dire d'une manière plus personnelle, je suis tous les jours avec toi. Quand c'est facile ou difficile. Qui a le pour et qui a le contre. Car il viendra des temps où l'Église rencontrera beaucoup de contre, et vous n'êtes pas sans savoir, et permettez-moi de vous le dire parce que c'est écrit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Et dans la persécution, ce n'est pas facile. Mais si je prends l'Église du Nouveau Testament, qui a été persécutée, elle a été fidèle contre tout et malgré tout. Sommes-nous aujourd'hui capables de résister à toute attaque de l'adversaire? Parce que c'est l'adversaire qui va produire la persécution de l'Église et des chrétiens. Et il a déjà commencé dans certains pays. Ce que Dieu demande, c'est écrit aussi, c'est qu'il nous trouve fidèles. Or, Enoch, il est resté fidèle à Dieu et il a suivi. Et il a aimé, et il a écouté, et il a servi, il a marché pendant un moment, à partir du temps où il s'est consacré à suivre Dieu, il a marché avec lui 365 ans. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de la 365e année? Dieu l'a enlevé. C'est un homme qui n'a pas connu la mort. Amen. Amen. Quand je préparais et j'ai eu à cœur de vous parler d'Enoch, c'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur. Et je dis personnellement, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas l'Église qui va être enlevé par rapport aux événements qui se font et qui témoignent de la véracité biblique. Question, Enoch a été enlevé, pourquoi? Pourquoi Enoch a été enlevé? Parce qu'il a été trouvé juste aux yeux de Dieu. 365 ans. De marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, cet âge-là est dépassé. Hein. Non, aujourd'hui. Non. Parce que dans les psaumes, il est écrit que pour les plus costauds, c'est 80 et les moins costauds, 70. Tous ceux qui ont plus de 70, ils disent comme moi, « Gloire à Dieu pour le rap que tu m'as donné de vivre, de connaître ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Alléluia !» Mais en même temps, je me prépare pour aller le rejoindre. La question que je pose, c'est es-tu prêt? Enoch était juste devant Dieu. Amis, frères, sœurs, ce matin, est-ce que tu es juste devant Dieu? Réfléchis. Une vie juste c'est une vie consacrée à Dieu. Une vie juste, c'est une vie qui reste fidèle à Dieu. Une vie d'enfant de Dieu juste, c'est une vie qui ne conteste pas la volonté de Dieu. Une vie juste devant Dieu, c'est ceux ou celles qui respectent la parole de Dieu. Et qui la vivent ? Ce n'est pas le tout de dire « je vais la faire respecter à un autre », il faut que je la respecte personnellement, la parole de Dieu. Et non pas de juger ni mes frères ni mes sœurs, quels qu'ils soient, mais de dire « Seigneur, bénis-les ! » Parce que si je bénis mes ennemis, bien qu'il n'y en ait pas, comprenons-nous bien, peut-être à l'extérieur, mais un chrétien n'a pas d'ennemis. Et pour ses ennemis, il prie pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il est juste et qu'il aime Dieu et qu'il fait la volonté de Dieu qui nous dit « Priez, pas seulement pour vos amis, mais pour vos ennemis. » Afin que quoi ? Que je sois en paix et prêt quand le Seigneur Jésus viendra me prendre ou prendre l'Église. Quand je parle de juger, savez-vous que Jésus a enseigné ceci ? Il a dit que si nous jugeons les hommes, nous aussi nous serons jugés devant Dieu. Et il a même ajouté, et on y en ajoutera. Alors maintenant, question, es-tu juste devant Dieu ? Prêt à le rencontrer ? Prêt à rentrer dans sa gloire ? Prêt à chanter avec les anges la gloire de Dieu. Es-tu prêt s'il revenait aujourd'hui? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Et si tu n'es pas prêt, ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera la faute de qui? De celui qui n'a pas voulu demandez grâce à Dieu. Demandez pardon à Dieu. De ne pas avoir veillé sur ses pas, comme le Seigneur enseigne. Veille sur tes pas. Et tes pas, tu dois les mettre dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, qui va te conduire en vainqueur à la vie éternelle, en passant, en surmontant toutes les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie en tant que chrétien. Là, c'est Enoch. Il a été enlevé parce qu'il a été fidèle et juste. J'allais dire jusqu'à ce que Dieu prenne la décision de l'enlever. Nous, nous le savons, il viendra pour prendre son Église. Pour Enoch, il ne savait pas ce qui allait se passer au bout de ses 365 ans de marche avec le Seigneur. Vous rendez compte, c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais enfin, vous vous rendez compte, est-ce que Noé pensait qu'au bout de ses 365 ans, il allait être enlevé ? Non. Il a dit, je tiens 365 ans parce que je sais qu'il va venir me chercher. Non, il ne le savait pas. Au bout, Dieu a décidé de le prendre. Nous, le Seigneur, ne nous cache rien, c'est écrit. Il a dit, je viendrai vous chercher. Pas dans 365 ans. Aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne sais pas. La question, c'est que Enoch a été juste et a été enlevé. Et la question que je me pose, sommes-nous prêts à partir aujourd'hui ? Non ? Maintenant, il y a un deuxième homme. Ouais. Il y a un deuxième homme de la Bible. Noé. Noé, bon, lui, il n'a pas été enlevé. On est bien d'accord. Et pourtant, Dieu est intervenu parce qu'il était juste. Non ? Je ne vais pas vous manger. Hein. Noé était juste. Pourquoi il était juste ? Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il marchait aussi avec Dieu. Et dans quel temps vivait-il ? Dans quel temps vivait-il ? Dans des temps où il y avait, vous le relirez dans Genèse, chapitre 6, où il y avait de la violence, où le monde était impie, incrédule. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Si je me trompe, vous viendrez me le dire à la fin du culte. Ne sommes-nous pas rentrés dans un monde de violence? Sommes-nous pas rentrés dans un monde inique? Ne sommes-nous pas rentrés dans un monde d'impureté? Quand je pense à ceux que nos enfants qu'on met à l'école primaire ou ailleurs, ce qu'on va leur enseigner maintenant, parler du transgenre à mes enfants, mes petits-enfants. Mais le monde est devenu athée, plus qu'athée. On a dépassé aujourd'hui les temps de Noé. On s'enfonce, le monde s'enfonce dans l'iniquité, l'impureté, le mensonge. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la violence, le désastre, c'est l'adversaire qui est en train d'agir dans notre monde parce qu'il veut empêcher les hommes de croire. Et il est en train d'essayer d'arriver, mais Dieu va lui mettre un frein. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que le diable est en train de conquérir les actions des hommes, pas en totalité. Et le chrétien, lui, doit toujours vivre dans un monde tel qu'il est, violent, méchant. Mais lui, il ne participe pas. Qu'est-ce que doit faire un chrétien quand il entend ou voit ces choses? Il est écrit dans la Bible, condamnez-les. Je ne dois même pas approuver ce qui est dit ou ce qui est fait. Je dois condamner ces choses pour rester pur et juste devant le Seigneur. C'est ça notre rôle. Parce que Noé, lui et sa famille ont été sauvés du déluge. Dieu les a mis à l'écart. Et dans ce temps de méchanceté, de violence, etc., Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Et un jour, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Parce que j'ai décidé maintenant de détruire le monde. Mais toi, parce que tu es juste, Noé, toi, fais-toi une arche. Et tu y rentreras, toi et toute ta famille. Ça vous ne rappelle pas une parole d'un apôtre, ça? De cet apôtre qui a été libéré par le Seigneur et qui dira au geôlier, et tu seras sauvé parce que tu as écouté, parce que tu as reçu le message, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je voudrais vous laisser quand même ce message. Si tu obéis à Dieu, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce qu'en fait, Noé a été sauvé. Et le déluge ne s'est pas fait. Ne s'est pas fait du jour au lendemain. Avec ses enfants, il est allé chercher les poutres. Il a fallu les tailler, les poutres. Ensuite, il a fallu monter le bateau. Et puis, ce n'était pas un petit bateau, c'était à peu près grand comme le France ou un autre bateau de croisière immense. Pas oublier qu'il est rentré dans ce bateau tous les animaux de la terre, un couple de chaque animal. Alors, les souris, ça va. Mais les éléphants, les girafes. Et puis, en plus, il a fallu entendre l'escargot. C'est pour cela qu'il a mis tant de temps à faire, parce que l'escargot tardait à arriver. Mais il a été sauvé, l'escargot. Qu'ils sont beaux, les escargots, ce matin. C'est dur, hein? Les temps sont difficiles, frère. Attendez, j'arrive. Non. Parce qu'un chrétien a toujours le cœur joyeux. Il saute comme un cabri. C'est écrit dans la parole, un texte dans le Nouveau Testament, où il dit que les animaux, devant la joie, ils sautaient comme des cabris. Ah ouais. Dieu procure beaucoup de joie, même dans les temps difficiles. Dites pas amen. Hein? Alors, petite question, pourquoi Noé a-t-il été sauvé, lui, toute sa famille? Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sortirons que lorsque j'aurai la réponse. Pourtant, elle est simple. Il a été sauvé parce qu'il a obéi. Il a été sauvé parce que pendant la persécution, parce que pendant que lui construisait l'arche, il annonçait aussi la nouvelle. Il a été le prédicateur de la justice. Vous l'avez lu ça? Ce qui veut dire pendant tout le temps que l'arche était en construction, il a quand même parlé de Dieu. Il a été un témoin de Dieu pour sa famille et pour tout. Mais il est écrit, aux yeux des habitants, il parut plaisanter. Dieu ne plaisante jamais avec sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit. Je ne discute pas avec Dieu. Discute pas. Ça vous paraît peut-être étrange, ça. Hein? Discute pas, moi, avec Dieu. Je résiste un petit peu, des fois. Il m'est arrivé plus d'une fois, en toute humilité, de faire un programme dans ma journée pour servir le Seigneur. Ou alors pour faire un message. Alors, j'ai la pensée, j'ai l'idée. Je me souviens de, entre autres, parce que merci Seigneur pour les expériences qu'il m'a donné de faire. Et à ce temps-là, j'exerçais le ministère dans le Lot-et-Garonne et je prenais 2 jours pour faire des visites. Et un jour, je partais faire la visite, les visites, et j'avais fait un programme de visite. Et je partais dans la direction du programme que j'avais établi, faire un circuit de voir les frères et sœurs. Et quand j'ai quitté la maison avec la voiture pour faire ce circuit, au bout de 5-10 minutes, j'entends une voix qui me dit « Va voir Madame Dubourdieu. » C'est une sœur de l'église, elle a s'appelé Madame Dubourdieu. Une mémé d'un certain âge. Alors, j'ai entendu. J'ai quand même continué à rouler. Et puis au bout d'un moment, c'est « Va voir Madame Dubourdieu. » Alors là, je savais qui me parlait. Et Seigneur, tu sais, ce n'est pas prévu dans mon programme. J'ai fait mon programme, il faut que j'aille voir ses frères et sœurs. Et puis, je continue à rouler en disant ça. Et d'un seul coup, mais alors un peu plus autoritaire, va voir Madame Dubourdieu. Ok, Seigneur, j'y vais. Je fais demi-tour et je retourne. Et je vais voir Madame Dubourdieu, qui était assez loin de Marmande. Et je suis arrivé, je rentre dans cette brave sœur, elle a exercé, qui avait de l'âge, et elle avait exercé le métier de bûcheronne. Et un peu, elle était petite, Madame Dubourdieu. Mais elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Et elle habitait loin de Marmande. Alors, je suis allé là-bas, trouver, elle habitait dans une ferme. Et puis, là, dans la salle à manger, là, il y avait sa fille. Alors, Et je dis, je viens voir Madame Dubourdieu, je viens voir votre maman. Elle me dit, ma maman, elle est malade. Elle est couchée dans sa chambre. Ah bon? Je dis, vous pouvez me dire où elle est? Elle me dit, oh, voilà, vous sortez. Je me rappelle comme si c'était hier. Vous sortez sur la gauche, là, maintenant, puis vous prenez de suite l'allée à droite, puis la troisième porte que vous verrez comme une arche, là, vous rentrez, c'est là qu'est sa chambre. Une chambre de ferme. Alors j'ai fait le parcours. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, il faisait noir là-dedans. J'ai ouvert, je lui ai dit, Madame Dubourdieu, c'est Monsieur Asquette. Et d'un seul coup, j'entends, ah, merci Seigneur, frère, j'avais prié pour que vous veniez me rendre visite. Vous voyez qu'il est intéressant d'écouter la voix du Seigneur. Et vous savez, ça c'était un vendredi après-midi. Et le dimanche matin, je commence à faire le culte et ma mamie, là, elle n'était pas là. Et pendant que je faisais chanter l'église, je pensais à la mamie du Bourdieu. Seigneur, bénis-la. Et au bout de 5 à 10 minutes, d'un seul coup, je vois la porte s'ouvrir et ma petite mamie du Bourdieu, habillée avec les joues un peu rosées, le petit chapeau noir, je la revois encore, qui est rentrée avec un grand sourire dans l'église. Et moi, j'ai dit, merci Seigneur. Il a exaucé la prière. Il a béni la foi de notre sœur. Mes amis, il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter quand il nous parle. Il faut écouter quand il nous conduit. Il peut nous parler par le Saint-Esprit intérieurement. Il peut nous parler lorsqu'on lit la parole. Il peut nous parler par la parole de Dieu. Il peut nous parler par un don de prophétie. Il faut savoir l'écouter et le vivre. Et quand il nous dit « prépare-toi », il faut te préparer. Et écouter, ça veut dire avoir une oreille attentive. Une oreille qui écoute Dieu. C'est une oreille qui se plaît à entendre la voix de Dieu pour faire sa volonté. La volonté de Dieu qui nous est révélée par sa parole. Ça, quand on vit ainsi, mes frères et sœurs, c'est se préparer à son retour. Oui, le monde est difficile. Oui, il y a des combats. Oui, ça deviendra de plus en plus difficile. Ne l'ouvrons pas, ne l'ouvrons pas. Mais Dieu a dit, je suis avec toi. Je suis avec chacun d'entre vous, mais toi, écoute-moi quand je parle. Écoute-moi quand tu lis la parole. Écoute-moi lorsque tu pries que je vais te parler par le Saint-Esprit. Écoute-moi et fais ma volonté. Tout comme Noé a fait l'arche suivant ma parole. Oui, il y a eu les moqueurs. Oui, il y a eu les blasphémateurs. Oui, il y a eu des persécuteurs par les mots. Oui, ils se sont moqués de toi et de ma parole. Mais j'accomplirai ma parole. Et je t'ai choisi pour que tu accomplisses ma parole. Parce que tu as été trouvé juste à mes yeux. Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'as suivi. Parce que tu as enseigné à tes enfants de me connaître et de marcher, parce que tu as été juste dans ta marche avec moi. Alors je te sauve aujourd'hui. Fais-toi une arche. Et rappelez-vous que quand l'arche a été faite, Dieu a donné 7 jours. Et pendant le temps des 7 jours, les animaux sont venus. Et là, d'un seul coup, il y a une phrase qui est quand même terrible pour les gens du temps de Noé. C'est que nous a dit que lorsque le dernier animal ou la dernière personne de la famille de Noé est rentrée dans l'arche, écoutez bien, Dieu ferma la porte. Et 7 jours après, la pluie est tombée. Je me demande personnellement, là j'y vois la patience de Dieu qui a attendu 7 jours pour peut-être permettre à quelqu'un ou à un peuple qui était là de venir taper à la porte de l'arche, non pas uniquement pour leur dire « ouvre-nous », mais qui aurait dit « c'est Noé, tu avais raison, nous demandons pardon à Dieu ». Et s'ils avaient eu cette action de se tourner vers Dieu, je suis persuadé que Dieu aurait pardonné à ce peuple-là. Parce que Dieu ne l'a-t-il pas fait quand un jour il a pris la décision de détruire le monde dans lequel vivait Jonas. Pas Jonas, si c'est Jonas. Et vous savez que quand Jonas est allé à Ninive pour dire la volonté de Dieu, encore quelques jours et Dieu va détruire Ninive. Il nous est dit que sur la décision du roi de Ninive, ils se mirent le peuple entier sur la couverture, sur la cendre, et ils se sont tous repentis. Et quand Dieu a vu ses cœurs sincères se repentir, il est écrit que Dieu est revenu sur sa décision. Oh, je ne sais pas qui tu es ce matin. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt à aller avec lui dans la gloire? Ne dis pas ce matin, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Parce que les choses qui se passent nous ont dit, que nous révèlent et nous disent que Jésus est bientôt là. Bientôt là. Tout se met en place. Je ne veux pas vous faire peur, mais tout se met en place. Ce n'est pas mon but, je vous cite la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons aux informations que les nations sont en train de se lever pour aller contre le peuple de Dieu. Or, il est écrit, le jour où vous verrez ces choses, tenez-vous prêts, car je viens bientôt. Quand je ne sais pas, moi je ne le sais pas, vous ne le savez pas, Dieu le sait, mais le temps est venu où il faut se repentir. Où il faut l'écouter, où il faut faire sa volonté, où il faut vivre devant sa parole et être juste dans notre vie. C'est ce que nous avons lu, hein, la parole de Dieu. Nous, Dieu nous dit, je t'ai fait connaître ce qui est bien, mais que tu en as-tu fait de ma parole? Que en as-tu fait de mes conseils? Que en as-tu fait de la vérité que je t'ai donnée? Que en as-tu fait du nom de Jésus, de la personne de Jésus? Que en as-tu fait? C'est là la question. Dieu a tout fait. Et jusqu'au bout, il accomplira sa volonté. Et ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes qui ont cru en lui puissent être sauvés pour l'éternité. Mais cela ne dépend pas de lui, parce que Dieu a tout accompli. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Père, j'ai tout accompli. Et quand il a dit ça, cela voulait sous-entendre. Père, j'ai accompli toute ta volonté pour le monde de pécheurs. Il a tout accompli. Il nous a accompli le salut révélé. Il nous a accompli le chemin qui nous conduit à la vie. Il nous a accompli en nous donnant le baptême dans le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit pour conduire nos vies. Il a tout accompli pour que nous soyons justes au moment où il apparaîtra. Que nous soyons prêts à partir de cette terre d'une manière ou d'une autre. Je peux prendre la voiture, que Dieu me garde, mais je peux prendre la voiture maintenant, avoir un accident avec un fou par exemple et être tué sur le coup. Mais l'important, c'est de savoir que Dieu est avec moi, comme il est avec vous. Mais je ne peux partir, avec tout l'amour que je vois, et mes enfants sont là, ce matin. Je ne savais pas, salut. Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt. Et tant que tu m'en donneras la force et la santé, donne-moi aussi d'apporter ta parole et d'être comme une sentinelle dans la nuit qui avertit du danger. Parce que ça aussi, c'est écrit. Vous serez mes témoins. Vous serez des trompettes qui annonceront la bonne nouvelle. Ta trompette que tu es, est-ce qu'elle sonne vraie ou est-ce qu'elle ne sonne faux? Il n'y a rien de plus terrible que d'entendre un gars jouer de la trompette et jouer faux. Quel est le son qui sort de ta vie? Quel est le son qui sort de ta bouche? Quel est le son qui sort dans tes pensées? Quel est le son? Si c'est juste, c'est merveilleux. Tes pensées glorifieront d'eux. Tes paroles toucheront les cœurs de ceux qui t'entourent. Ta vie sera un son agréable à Dieu. Et je terminerai, parce qu'il y aurait encore peut-être des choses à dire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu vous aime. Et il ne veut pas que vous soyez perdus. Parce qu'il a donné son Fils et vous avez accepté son Fils comme votre maître et comme votre sauveur. Mais n'empêche que si nous ne prenons pas garde, que si nous ne veillons pas sur nos pas, que si nous ne veillons pas sur notre vie, si nous ne veillons pas à ce que le Saint-Esprit reste en nous et ne s'éteigne jamais, alors, nous prenons des risques. Nous prenons des risques, pas seulement pour maintenant, mais nous prenons des risques pour entrer dans le ciel. Vous savez, j'ai parlé de Noé, mais Noé a prêché la bonne nouvelle pendant plus de 100 jours. Et il a été la risée des gens. Noé était sauvé, lui et toute sa famille. Mais les autres, ils sont morts. Je terminerai encore un petit peu sur Noé, vous me permettez 5 minutes. Noé avait entendu de Dieu, tu te fais une arche. Tu fais une porte. Tu fais une fenêtre. C'est beau, hein, ce que Dieu dit là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pas grand-chose. Simplement, je vous dirai que quand Noé est rentré avec sa famille par la porte, le déluge n'est pas tombé de suite, je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu de tête 7 jours. Mais il est arrivé un temps, ou alors plutôt non, il n'a pas fallu de 7 jours. Quand Noé est rentré dans l'arche, Dieu ferma la porte. Et c'est après qu'il a attendu 7 jours et la pluie est tombée. Ce qui veut dire que Dieu a usé de patience. Qu'est-ce qui se serait passé si, comme je le disais peut-être tout à l'heure, les gens étaient venus à la porte? Mais même là, Noé n'aurait rien pu faire. Parce que Dieu avait fermé la porte. Et quand elle est fermée, elle est fermée. Dieu l'ouvrira en son temps. Par contre, Dieu avait fermé la porte. Mais Dieu avait pris une précaution pour Noé. Qu'est-ce qu'il avait fait comme précaution? Donc vous avez été sage, je vais vous laisser partir parce que vous avez le dessert qui vient. Vous avez oublié. Ce qui veut dire que Dieu avait dit à Noé, fais-toi une fenêtre. Et la fenêtre, elle ne devait pas être à ras de l'eau. Parce qu'on ne sait jamais, l'eau aurait pu rentrer. Alors la fenêtre était en hauteur. Et alors tous les jours, Noé pouvait voir ce qui se passait. Et puis ça a été un moyen de salut parce que c'est par la fenêtre que les oiseaux sont venus lui dire que ça y est, c'était fini, le déluge était terminé, l'eau s'était retirée, c'est bon, tu vas bientôt sortir de l'arche. Non? Eh ouais. Moi j'aime prendre cette image pour dire, ça y est, c'est bientôt fini, nous allons tous partir au ciel. Il y en a 4. Merci Seigneur pour les 4. Vous auriez tous dû sauter et dire Alléluia. Oui, et je termine. Parce que dans ce bateau, il y avait la porte qui a été fermée, il y avait la fenêtre qui a été ouverte. Mais alors là, il y a un problème. Il manquait une pièce au bateau. Qu'est-ce qui manquait au bateau? Le gouvernail. Parce que normalement, tout bateau bien fait a son gouvernail. Eh bien, le seul bateau que je connaisse qui n'avait pas de gouvernail, c'était le bateau de Noé. J'ai parlé de bateau parce que il est vrai que des fois, il y a des petites barcasses qui n'ont pas de gouvernail. Mais c'est celui qui rame qui fait le gouvernail. Là, il n'y a pas de gouvernail. Alors, comment ça se fait que l'arche est quand même allée s'échouer contre le mont Ahara. Eh bien, j'y étais pas, mais je suppose très simplement. Déjà, l'eau a baissé après plusieurs jours. Et puis, le bateau glissait sur l'eau. Qui faisait glisser le bateau? Je sais, il y avait des hommes grenouilles qui étaient placés sous le bateau ou derrière, et vas-y, poussez, allez, pas lever, dépêchez, oh, fainéant. Mais non, j'ai dit ça pour la jeunesse, pour les dérider, parce que, oh, mais je suis jeune, moi je veux profiter de la vie, elle sera meilleure là-haut. Les jeunes, ils ont tous dit amen. D'un seul coup, je sens que je me suis fait des ennemis. Mais alors, comment il a avancé le bateau? Poussé par la présence de Dieu autour, la puissance de Dieu que j'appellerai ce matin, et je terminerai par là, la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je terminerai en disant, soyez justes comme Noé, soyez justes aussi, puisque nous en avons parlé comme Enoch, fidèles, obéissants, aimant Dieu, servant Dieu, avançant avec Dieu, confessant son nom, étant rempli du Saint-Esprit, participez à faire connaître le nom de Jésus autour de vous, restez-lui fidèle, gardez la foi, le temps est court. Sois juste, sois fidèle, sois bon, et le Seigneur te conduira par le Saint-Esprit jusqu'au jour où il te sauvera pour la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, et tu parles à notre cœur. Seigneur, tu connais ces amis qui sont là. Je te demande de les bénir, et pendant quelques minutes encore, accordez-moi ces quelques minutes. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui a entendu le message de Dieu, et qui était éloigné, ou qui rentre là pour la première fois, et qui a compris que il fallait être prêt pour le retour du Seigneur. Si quelqu'un a perdu la foi, manque de foi, ou veut avoir en lui ou en elle cette espérance de la vie éternelle,